Cette émission vous est présentée par
Decathlon.
Top 10 des meilleurs joueurs to way actuels.
C'est lundi.
Yes sir.
Le meilleur jour de la semaine.
Voilà, 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 voilà.
Toujours oui, là, monsieur. Toujours en place. Un petit top 10 interesting, comme on dit là-bas.
Je sens qu'on va pas être d'accord. Je sens qu'il y a des fanbases qui vont pleurer et d'autres qui vont se réjouir. On espère que vous êtes bien installés. C'est lundi, le best way of the dick, pardon, le best day of the week, comme disent certains. Alex, ça va? Tout va bien?
Dis pas ça, on va se faire ban.
Ah oui, pardon. The best, le meilleur jour de...
Le meilleur jour voilà, de la semaine. Le week-end est derrière nous. Le samedi, c'est de la merde. Le dimanche, on se fait chier. Et heureusement, il y a le lundi.
Et après, on me dit qu'on va se faire mal.
Ça n'a rien à voir.
Bam. Mais non, ça, on peut. Vous le savez, c'est la joie et la bonne humeur. Et évidemment, des deux côtés du terrain, on est là pour parler des meilleurs two-way de la NBA actuelle. Parfois, il y a des top 10 all-time. Parfois, il y a des top 10 sur les joueurs en cours d'activité qui sont là en pleine carrière. Et donc, on a hâte de parler ce lundi de ce formidable sujet avec vous. Calmez-vous, on va donner tous les critères. C'est quoi un two-way player? Pourquoi est-ce qu'il y a certains joueurs qui ne seront pas dans notre classement?
Voilà.
Pourquoi est-ce qu'il y en a qui y seront?
Voilà.
Qu'est-ce qui a contribué à notre classement? On va parler de bouffe, on va parler de pompe, on va parler de plein de choses. On est très content comme d'hab de vous retrouver. N'oubliez pas, évidemment, chaque semaine de balancer dans les commentaires avec des cœurs vos suggestions de sujets. Ça faisait partie des suggestions de sujets de la commu, donc je l'ai noté, on en parle avec
sujet Alex. Sujet intéressant, moi j'ai bien kiffé quand on va parler des critères, après on va balancer nos classements et tout, mais c'est sûr qu'il y a une vraie discussion. Ce sont parmi les joueurs les plus importants de la ligue aujourd'hui, il y a les two-way players.
Tout à fait, et lorsqu'on commence à discuter des meilleurs joueurs de tous les temps,
c'est des two-way players, pas tous,
non,
mais moi perso dans mon top 10, j'ai un paquet de gros monstres du jeu actuel.
Ah, absolument.
Voilà.
J'ai une question, Alex. On l'a fait le all-time?
Two-way player? Non, je crois pas. Non. Il y a du monde. Hein.
Ce sera peut-être intéressant à faire, cette affaire.
C'est qui le numéro 1? Ouais, si, quand même. Mais il y a du monde.
On vous laisse débattre. Ça y est, Alex, il a envie de poser des questions, évidemment.
Parce qu'il y a Wilt. Wilt, il est pas mal en two-way, non?
Ouais, Duncan aussi, il est très fort. Ouais.
Jordan, tu connais?
Ouais, c'est pas mal. T'as vu aussi jusqu'à ne jamais mentionner LeBron.
Ah, LeBron, oh, si, clairement. Wow. Mais il va peut-être être quand même un petit peu derrière. Encore que, ça dépend comment tu évalues. Ça dépend comment tu évalues.
Sur l'ensemble d'une carrière, c'est sûr. On va devoir débattre de tout ça. Je te propose justement qu'on rentre dans le vif du sujet là maintenant. Le terme two-way. Pourquoi on voulait faire aussi ce top 10? C'est parce que certains ont peut-être vu ces récentes déclarations sortir. On a eu début janvier par exemple un Jaylen Brown mettre 50 points sur la tête des Clippers. Post-game interview, je cite deux points voilà guillemets, je pense que je suis le meilleur two-way player de la NBA. Quelques jours précédemment, en plein mois de décembre, interview de Victor Wembanyama. Bonjour, selon vous, qui sont les trois meilleurs joueurs de NBA? Je pense que Jokic n'est pas un joueur two-way, donc c'est plutôt Yanis, Shai et moi-même. Grosso.
Ouais, plus ou moins.
C'est un vrai débat cette histoire de two-way. C'est que quand on parle des meilleurs joueurs de la planète, on a des monstres offensifs, on a des joueurs super défensifs, mais c'est vrai que comme tu le dis, les joueurs les plus importants sont quand même ceux des deux côtés du terrain, quoi.
Alors moi là où je diffère de Wemby, je suis d'accord avec l'importance des two-way players, je suis d'accord évidemment, et je suis d'accord pour dire que Jokic n'est pas un vrai two-way player, il sera pas dans mes 10, voilà, c'est peut-être un spoiler par rapport aux 10 de Bastien, on verra. En revanche, je suis pas d'accord pour ensuite la hiérarchie qui fait. Moi, oui. Jokic, je peux tout à fait, dans un classement, dire c'est un meilleur joueur que Yanis ou Shai. J'ai aucun problème avec ça. Et dire, oui, il est moins fort qu'eux en défense.
Ouais.
Par contre, pardon, mais en franchise player, bah, moi, je prends Jokic perso, si vous me demandez. Donc, parce qu'il n'est pas si minable en défense, déjà.
Bah, s'il a 120 en attaque et qu'il a 45 en défense, 165, c'est pas mal comme total.
Ouais, et puis il n'est pas si minable en attaque. Il est moins fort que d'autres. En défense, pardon. Il est moins fort que d'autres monstros et tout. Mais il a fait des efforts, il s'est amélioré et tout. Il est très fort au rebond et tout, machin. Enfin, tu vois, à un moment donné.
Luka.
Voilà. Luka, clairement, je le mets encore bien derrière Jokic sur le sujet tout. Ouais.
Luka Doncic ne sera pas dans ce classement.
Ah non.
Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois, réfléchissez bien en faisant votre classement, ne serait-ce qu'un top 3 ou un top 10, ceux qui veulent faire le jeu complet avec nous. Il y a à la fois ce réflexe des joueurs très forts offensivement, hein, donc merci Jalen Brunson qui ne sera pas dans ce classement, merci Luka Doncic qui ne sera pas dans ce classement. Jokic, moi je peux entendre les fans de Denver qui viennent tabasser notre porte, moi j'ai un seul mot pour vous, Exemple concret, bah, la Finlande, hein, par exemple, hein, qu'on avait vu au dernier Euro. En fait, pour moi.
Tu crois, ouais, que les fans de Denver, ils vont nous dire, ouais, c'est un. Dites-nous, les gars.
Moi, je pense que. Bah, tu vois, par exemple, Antoué dans cette franchise, moi, Aaron Gordon me vient bien plus à l'esprit.
Bah, Christian Brown aussi. Il me vient même devant Jokic.
En termes de purement
de tout,
ouais. Ouais, c'est clairement. Ça. Mais en fait, moi, la définition claire pour un joueur qui doit rentrer dans ce classement,
fort
c'est.
Fort en attaque, fort en défense.
Alors, moi, il y a ça. Et il y a.
C'est pas comme ça, quoi. C'est ça que je veux dire.
Tout à fait. Et il y a. Tu peux être très très fort offensivement, mais please, il n'y a aucune équipe qui doit se dire « Ah bah c'est bien, on va attaquer sur lui. » Tu n'as pas ta place.
Non.
Et je suis désolé, pour un mec comme Jokic, tu n'as pas ta place dans ce
voilà.
classement.
Je suis voilà. d'accord aussi.
C'est...
Et évidemment, c'est donc un équilibre entre l'attaque et la défense.
Oui.
S'il y a un secteur qui est un peu plus fort que l'autre, ça se regarde, mais il faut que les deux secteurs soient à des niveaux très hauts. Et plus c'est haut, bah voilà.
Plus t'es classé, ah, voilà. Plus on se retrouve dans une heure. Dernier élément, Alex, avant qu'on passe évidemment à la bouffe et à des quatre, ça marche aussi pour les très très gros défenseurs. Eh, moi je suis amoureux de garçons qui sont très forts en défense comme Rudy Gobert. Il ne sera pas dans ce classement.
Bah non, non, non. Et même je vais te dire, parce Luke que Rudy Zort. Vraiment en attaque, il nous paraît très limité parfois. Ou Luke Hensdorf, effectivement. Mais même, tu vois, des gars qui sont pas si mauvais en attaque. Mais c'est pareil, quoi. C'est un peu comme on dit, Jokic, il est pas si mauvais en défense. Mais tu vois, genre, à un moment donné, si t'es un super défenseur, mais que tout ce que tu fais en attaque, c'est mettre des trois, ou presque, bah, ça va pas suffire.
On
genre,
va faire les mentions honorables.
T'as dit Aaron Gordon, j'exagère un peu, c'est un peu vache, mais Anunobi, tu vois.
Anunobi, par exemple, tout à fait. Moi, je sais pas, peut-être
Jaden
que je vais te
McDaniels.
McDaniels, exactement.
Ça, non, c'est des tout, ouais, mais le côté offensif va être un peu juste, quoi.
C'est un peu compliqué, tout à fait. Maintenant qu'on est bon sur la définition, regardez un petit peu ce qui se passe dans la NBA actuelle, à la fois défensivement et offensivement, et comme vous a dit Alex, vous faites cette image-là. Hop, 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 on monte les skills le plus haut possible. Attention aussi, il faut être sur les parquets. Ça peut être pratique aussi. Faut être en santé. Hein,
oui, ou bah en tout cas, si t'es pas sur les parquets, tu vas avoir du mal à être dans le top 3, le top 4, le top 5, évidemment. On parlera peut-être de toi quand même.
On va peut-être te mentionner dans cette émission, c'est fort possible. Alex, maintenant qu'on en est là, je te propose qu'on parle quand même de nos amis qui eux aussi sont two-way, puisqu'ils sont présents en attaque et en défense. Ce sont les poteaux de Decathlon. Et oui, il y avait une paire bleue de Canaveral de Alex Sarr, et maintenant il y a la blanche.
Et il y a toujours la noire. Et il y a toujours la bleue, évidemment.
Voilà.
Mais il y a la blanche qui vient de sortir.
Très cute.
Nouvelle couleur pour la signature. La chaussure signature de monsieur Alex Sarr, donc qui est porté en NBA. Est-ce qu'il va porter la blanche? Faudrait que je regarde les matchs là, faudrait que je vérifie ce qu'il porte au pied, parce que c'est pas le truc que je regarde le plus.
On a la bleue et la noire.
Mais en tout cas, il y a un joueur français qui porte des pompes françaises en NBA, qui va aller d'ailleurs au Rising Star Challenge là. Tout bientôt, pendant le week-end du All-Star Game. On verra quelle couleur il a, mais il a le choix.
Absolument.
Il y a du bleu, du noir, du blanc.
Est-ce qu'il y aura un jour une version rouge? Ça, je laisserai Decathlon et leur CM s'en occuper. Ce qui est sûr, c'est qu'en premier commentaire de cette vidéo, vous pouvez toujours retrouver le matos de Decathlon, parce qu'on parle beaucoup de cette paire de pompes de la collab Alex Sarr à Decathlon. Mais vous pouvez aussi retrouver évidemment du merch, du textile. Alex, il a le hoodie officiel.
Ouais, franchement, si je m'en lasse pas de ces petits hoodies, ils sont agréables à porter. Ouais. Là, moi, j'ai le logo NBA que j'aime bien. Il existe en. J'aime bien aussi en espèce de. Ouais, c'est ça, écru. Blanc et cru, là, sympa. Ouais,
top malade. en plus, ça permet à Alex de traîner dans la rue. Les gens l'arrêtent, on lui demande s'il bosse pour la NBA. Donc, c'est formidable. Quand tu te ramènes à l'aéroport comme ça, tu fais laissez-moi.
Ce à quoi je dis non, je suis joueur.
Excellente réponse. Maintenant qu'on est bon, je crois qu'avant de prendre les tablettes, on va devoir manger ensemble. Car lorsqu'on se retrouve le lundi à midi, comme depuis tant d'années, on doit se poser la question du peuple, qu'est-ce qu'on mange?
Qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? Ah oui, gratin de chou-fleur, j'ai dit la semaine dernière. Parce que j'essaie d'éviter
de faire des duplicata.
Ah oui, quand même.
Allez,
tu
Alex,
vois,
on varie.
Genre, ok, donc cette semaine, équilibré, propre. Filet de poisson, mettons, de bar. Tiens, c'est
filet
bon.
De bar.
Ouais, filet de bar, haricots verts.
Ah oui.
Et petite sauce au beurre.
Au beurre? Un peu
ouais,
de citron, pas?
Beurre blanc, là.
Ouais.
Un peu de citron, mais j'avoue, c'est pas mon délire, le citron, moi. Je trouve que ça bouffe un peu le goût.
Mm.
Je suis plus beurre blanc.
Et les haricots, on est plutôt vapeur ou cuit à l'ail avec la poêle?
À l'ail, à la poêle. À l'ail, à la poêle, beaucoup d'ail.
Dites-nous évidemment.
L'idéal, c'est que tout le monde en mange après si tu te parles.
Voilà. Tout le monde est pote. Évidemment, je n'ai pas mangé d'ail, mais si vous voyez, si vous voyez Alex tourner la tête, c'est que j'ai mangé de l'ail. Bœuf bourguignon, évidemment, vous faites comme vous voulez. Je l'avais déjà répété par le passé, mais ensuite, chacun sa méthode. Donc voilà, on va partir là-dessus. Dites-nous ce que vous mangez. On est le lundi. On va pouvoir prendre les tablettes?
Ouais, on va pouvoir prendre les tablettes. Elle est là.
Normalement, elle est dans le coin du. Exactement. Tu as juste Une petite mention honorable, tu en parlais à l'instant, un Jalen McDaniels. Moi, je peux juste te parler rapidement d'un garçon qui n'a pas fait sa place dans le classement. Et pourtant, Dieu sait si je l'aime, c'est monsieur Derrick White, qui est un très fort.
Non, je l'ai pas.
C'est bon, d'accord. Derrick White qui fait partie des très bons joueurs two-way, mais pas assez fort en attaque. Mais
il est même pas dans la liste.
Un des meilleurs défenseurs extérieurs de la planète, à qui on accorde quand même entre 15 et 20 points par match avec du très bon pourcentage à 3 points, un peu de pénétration, mais n'est pas un joueur assez élite offensivement pour pouvoir entrer dans ce classement. Donc, malheureusement, Derrick White fait partie des mentions honorables.
Mais je sais pas si je vais te spoiler dans ça qui me fait chier. Vas-y. C'est que j'ai une double mention honorable, qui c'est plus que de la mention honorable. C'est des joueurs à la base, ils y sont tous les jours. C'est juste que là, on fait un top 10 actuel et que, bah, désolé, ça se blesse beaucoup trop. Et donc, je rentre des joueurs au-dessus.
Bon, ils sont en 10.
C'est la double mention honorable. J'arrive, mon 10, t'es pas prêt. C'est la double mention honorable, Joel Embiid, Anthony Davis.
Ah, eh ben, non. J'ai Anthony Davis aussi, mais j'ai un autre joueur à la place.
Ah, mais t'as Embiid dans tes 10 ? Bon, on verra. Moi, j'ai Joel Embiid, Anthony Davis. T'as quoi ? C'est qui ça ? Nate McMillan ? Il joue plus. Hein.
Ah, The Claw !
Ah, moi je l'ai dans mes 10, c'était ouf.
Ah bah oh, attends.
La vache. Mais il joue là en ce moment.
Ah bah, il joue en ce moment.
Ah bah il joue.
Mais très bien, je vais en parler en 10. Mais oui, mais j'en parle en 10. Ah, malheureusement, parce
attends,
que Embiid joue
en
ce moment.
Tu l'as en mention ou en 10 ?
Non, je l'ai en 10.
Oui,
en 10.
Mais attends, alors justement, je vais m'expliquer. Embiid joue en ce moment, tout à fait. Oui. Et Anthony Davis a joué quelques matchs cette saison. Juste, pardon. Anthony Davis, certains pourront dire que c'est un peu dur parce que c'est vraiment les blessures qui le foutent sur le côté.
C'est chaud.
Et quand il est là, ça défend fort. Alors que Joel, là, ça progresse. Et vraiment, respect immense sur ce qu'il est en train de poser.
Il retrouve
son jeu d'attaque et tout. En revanche, on voit bien que les soucis physiques vont l'empêcher de redevenir le défenseur qu'il était, je pense.
Ça, j'entends.
Je pense.
Mais donc, du coup, ce sont des mentions pour toi, là.
Tous les deux, ils sont là où. En fait, ils étaient dans un pool.
Je pourrais pas faire un top 10 sans avoir une mention de Heidi, quand même. Dans le 10.
Alors, moi, j'ai un autre gars, en fait, parce que j'ai un autre
gars. C'est chaud, hein.
Donc je voulais mettre et donc à un moment donné il faut bien que je trouve des places pour les gens et donc j'ai sorti Anthony Davis et Joel Embiid parce que je me suis dit ok, top 10 actuel, on a deux gars qui ont passé la trentaine, des monstres, et même Embiid, même avec un corps qui lui fait des siennes, et donc il joue, mais on voit bien que genre clairement c'est plus le même athlète qu'avant, et je trouve que le fait que ça soit plus le même athlète qu'avant, Ça se voit le plus en défense. Je trouve qu'en attaque, il a réussi. Là, le ballon tourne autour de lui. C'est un excellent passeur. Il a son toucher, son machin. Et là, il est en train de, moi, en tout cas, vraiment, respect immense sur ce qu'il est en train de faire. En revanche, de l'autre côté du terrain, ça se voit qu'il probablement ne redeviendra jamais le défenseur qu'il a été à une période où on oubliait tout le temps de dire que limite, son point fort, c'était la défense.
Ouais.
Tu vois ? Et Anthony Davis, je le mets parce que vas-y, j'en ai ras le cul. Le mec, à chaque fois, on dit qu'il défend trop bien et tout. Par contre, mec, t'es jamais là. Alors, au bout d'un moment, pour défendre, faut être là. Voilà, ça me fait chier. Voilà. Allez. Donc, je les ai mis tous les deux parce que c'est des monstres. Hein.
Mais
j'ai 10 joueurs au-dessus, moi.
C'est très très bien. On va commencer
toi,
justement.
Attends, juste, excuse-moi, ta mention honorable, c'est Kawhi Leonard.
Non,
il est pas dans tes 10.
Si.
Ah, pardon.
Tu vas voir.
Excuse.
J'ai dit Derrick White en mention, honorable avant
Derrick
qu'on sorte des tablettes.
Je suis d'accord, pas assez fort en attaque.
Pas assez fort en attaque, mais voilà.
Je suis d'accord.
J'ai fait ce qu'on appelle dans le jargon. Une Alex en 10, c'est-à-dire que je me suis permis une petite entorse, hein. Voilà. C'est la spéciale.
Donc il a mis 3 joueurs.
Non, j'en ai mis deux, mais c'est marrant.
C'est un top 12.
Alors, on commence à se connaître, t'as fait exactement ce que t'as fait dans mention honorable, je l'ai fait en place numéro 10, j'ai mis Kawhi et Heidi en place numéro 10 parce que ce sont des joueurs qui, indéniablement, sont, enfin, vas-y, monte ton 10, comme ça on va pouvoir montrer à tout le monde. Monsieur Jason Tatum.
Bon, alors évidemment, top 10 actuel, on va essayer de voir.
C'est pour ça que je le mets en 10, c'est une wild card.
La place numéro 10 est un peu difficile. Je prolonge juste un petit peu l'argumentaire sur la place numéro 10. Lorsque ces garçons sont en pleine forme et pleine santé, ils discutent dans le top 6 sans le moindre problème. C'est-à-dire que Anthony Davis, moi j'ai même eu la chance avec certains d'aller le voir à Dallas jouer. Le mec, il est sur deux jambes, il a deux poumons qui respirent. C'est un des 3 meilleurs défenseurs de la planète. Tu peux mettre toute une défense autour de lui. C'est incroyable de le voir défensivement en vrai. C'est-à-dire que il annonce tout, communique bien, patrouille la défense. C'est vraiment saisissant à regarder. En attaque, ça reste quand même Anthony Davis. Hein. C'est-à-dire que en jump shot, en aérien, etc.
Ouais, c'est pour ça que je te dis, j'ai fait un AD Embiid, moi.
Et donc, du coup, j'ai mis Anthony Davis en me disant.
Un peu sur Kawhi, moi.
Et donc, sur Kawhi, évidemment, le mec, quand il joue, c'est extraordinaire. Le mec peut être top 5 des deux côtés du terrain, pas de doute. Là, on a un petit peu de chance cette saison parce qu'il y a des matchs sur lesquels il joue. Bon, après, sur le début de saison, il était à nouveau.
L'année dernière, il avait fait une fin de saison sympa. Hein.
Il avait fait une fin de saison sympa, mais il avait aussi une partie précédente
bah, c'est Kawhi
sur laquelle c'était un peu compliqué. Et donc, du coup, ces deux joueurs-là, je voulais les mettre dans le même paquet parce que. On est aussi sur des joueurs d'une génération un petit peu proche qui commencent à vieillir. Hein. Les deux là, on va bientôt devoir laisser sa place à une nouvelle génération de two-way players. On a des flashs encore de Kawhi et AD. Certains soirs, on se dit waouh, ils sont énormes de côté du terrain. Et puis on a beaucoup de flashs aussi où en fait c'est le flash info. Ce joueur ne jouera pas ce soir. Mais j'entends qu'il puisse y avoir. S'il y a des gens qui me disent vous êtes des oufs, AD il est top 5, allez-y. S'il y a des gens qui mettent Kawhi top 5, allez-y. S'il y a des gens qui mettent Embiid dans le top 10, pas de problème. Chacun sa manière de faire, moi je les ai mis tous les deux parce que ce sont les plus injury prone parmi les meilleurs joueurs two-way de la NBA. Parle-nous de monsieur Jason Tatum qui pour un moment est en street close.
J'ai mis en 10, en wild card parce qu'il a pas joué de la saison et donc comme c'est un top 10 actuel et tout, mais je l'ai mis en 10 en wild card parce que si c'était pas un top 10 actuel et enfin pardon, s'il était pas s'il était pas blessé donc dans le cadre d'un top 10 actuel.
Ah, JT, c'est ouf.
Parce que honnêtement, bon, offensivement, j'ai besoin d'expliquer à personne le scoreur que c'est, les progrès offensifs qu'il a fait en termes de création pour les autres, ball handling, vision, passe et tout, c'était très impressionnant. Ouais. Et les Celtics qui gagnent des tonnes de matchs et qui vont jusqu'au bout, jusqu'au titre et tout, l'année dernière, qui ont gagné encore 61 matchs l'année dernière et tout, sont offensivement, sont d'abord construits autour de lui. Avant même Jalen Brown. Jalen Brown, on va en reparler, à mon avis, dans ce classement. Donc c'est un truc de fou. Mais. Clairement, je ne pouvais pas laisser Jason Tatum de ce top 10 parce que je croise les doigts tous les jours pour qu'il revienne à un niveau très correct. J'y crois quand on voit ce qui s'est passé avec KD ou d'autres gars. Le tendon, c'est dur, mais je crois que Jason Tatum, en plus, il montre beaucoup de signes. Il y a des rumeurs comme quoi il pourrait revenir avant la fin de saison, machin. Il y a des gens qui disent que les Celtics vont être titrés. Enfin, tu vois, genre, doucement quand même. Mais
allons-y.
En gros, ouais, actuellement, malgré sa blessure. Je mets Jason Tatum dans les 10 meilleurs two-way players de la ligue parce que offensivement, clairement, il fait partie des tout meilleurs scoreurs et, et parmi les très bons créateurs et tout. Et défensivement, il a déjà montré à plusieurs reprises, que ce soit dans des matchs de saison régulière, que ce soit dans des séries de playoffs contre des Kevin Durant ou des Giannis ou des gars comme ça, que ouais, ça se tape les mains sur le parquet, ça rigole pas du tout et ça défend intelligemment. C'est-à-dire que... il utilise sa taille, souvent utilisé poste 4, un peu de Jason Tatum, il vient participer au rebond, il peut protéger le cercle, il est bon sur les lignes de passe, il est pas dégueulasse sur l'homme, enfin. Non, et non, en plus, le mec a une charge offensive de fou malade.
Moi, ça, j'entends. La place numéro 10, c'est toujours un peu tricky.
Donc, je l'ai mis en 10.
Et maintenant, on va démarrer le top 10.
Voilà.
En place numéro 9,
maintenant,
le grand classique.
On peut avancer.
Allez, place numéro 9. Attention. Là, on est sur un. Très gros athlète, parce qu'on est sur des très gros athlètes.
De toute façon, si t'es pas un gros athlète, two-way player, c'est compliqué à l'eau quand même. Hein.
Et Alex va nous mettre monsieur Jalen Williams et j'ai mis monsieur Amen Thompson du côté de Houston. J'ai Jalen Williams dans mon top 10.
J'ai pas Amen Thompson.
Ok. De toute façon, il y a des mecs. Est-ce que, juste, je te pose une petite question. Est-ce qu'il y a t'as un rookie dans ton classement?
Non, je l'ai pas mis. Okay. Mais je l'avais dans mes. J'ai pensé à lui. Tu vois, il y a écrit wildcard et il y a le nom du rookie auquel
tu
penses.
Ah oui, il
y en a 5. J'étais à côté. Toi. Mais finalement, ma wildcard, c'est devenu Anthony Davis et Embiid. On peut pas avoir.
Parle-nous de
C'est devenu Jason Tatum d'ailleurs, ma wildcard.
Parle-nous de J-Dub. Ah ouais, 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 ouais.
Alors tu vois, si on était en train de faire ce classement il y a un an, ça se trouve, je l'aurais mis plus haut que
C'est
9.
Plus haut. C'est cette saison qui fait qu'il recule, je suis d'accord.
Cette saison, ça recule surtout offensivement parce qu'il y a du mal à se mettre en route. Et donc, ça veut pas dire que je crois plus en lui ou quoi, pas du tout. Au contraire, voilà, c'est juste que, à un moment donné, quand on fait des classements actuels, on est bien obligé de prendre en compte ce qui vient de se passer dans les 3-4 derniers mois.
Ouais.
Et concrètement, il y a eu des blessures chiantes. Il a mis du temps avant de démarrer sa saison. Et on a bien vu d'ailleurs que le Thunder pouvait défendre sans lui. Ça, c'est tout le sujet du Thunder dont on va certainement reparler dans cette vidéo à un moment donné. Peut-être même à plusieurs reprises, on verra. Mais par rapport au rôle qui lui incombe au Thunder, lieutenant d'un MVP, co-lieutenant avec Chet Holmgren, on peut discuter, machin et tout. Machin,
c'est le lieutenant.
Mais je pense que le vrai lieutenant, c'est quand même Jalen Williams. C'est on l'a vu en playoff. Les rôles défensifs qui se bouffent, on l'envoie sur des missions reloues régulièrement. Les qualités athlétiques, les qualités physiques du gars qui peut aller prendre des postes 2, des postes 3, des postes 4, quand même, il peut le faire.
Des 5.
Des 5 un peu, mais il est en galère. Mais oui, il peut un peu.
Ah, je vais en reparler.
Mais voilà. Donc, très impressionnant sur ses qualités défensives. L'intelligence défensive, les qualités athlétiques, le hustle, plein de choses et tout qui contribuent énormément à boucher des trous et à faire énormément de bien à la défense d'OKC. Parce que sur les lignes extérieures, ils ont vraiment beaucoup de joueurs à envoyer. Mmh. Sur les postes d'aile, wow, t'envoies Lou Dort, attention, hein. Chatham Grain, c'est pratique dans la raquette, mais c'est vrai que Jalen Williams, il a un truc à lui là-dessus. La seule chose, c'est que là, il démarre quand même, c'est complicado, là, le début de saison offensif. Très compliqué. Et non seulement c'est compliqué, mais en plus, le Thunder défendait très bien quand il était pas là. Donc c'est pas qu'il est pas utile, hein, c'est pas ce que je dis, c'est juste que tu bénéficies quand même d'un environnement global qui te permet de pas être là, et la défense elle tient toujours. J'ai d'autres mecs quand ils sont pas là, ça se voit très très fort, très en fort. Attaque comme en défense. Donc je l'ai mis en 9, c'est tellement difficile.
De toute façon, il y a un nombre de mentions honorables, vous avez vu, on s'est déjà bataillé.
Je l'ai mis en 9. Toi, tu l'as dans ton classement, Jalen Williams, ouais. Mais on en reparle tout à l'heure. Et donc là, Amen Thompson.
Amen Thompson, qui est un des jeunes meilleurs two-way players qui est en train de se développer en NBA. Alors, défensivement, il n'y a pas de doute. Hein. Toute la question
ouais,
avec.
C'est plus en attaque.
C'est
là,
en attaque qu'on
moi,
a l'évolution.
Je suis moins sûr.
Ouais, tout à fait.
Ça progresse, mais pour l'instant, il n'est pas dans mes 10. Moi, l'attaque, elle
j'entends.
Est
Monsieur Amen Thompson, défensivement, il n'y a pas de problème. On l'avait vu dès le début de sa carrière NBA. On l'a vu prendre des très très belles match-up et montrer à quel point il est exceptionnel. C'est un des meilleurs athlètes de la planète. C'est un joueur qui accepte beaucoup de match-up et qui est très bon et en aide et en individuel sur l'homme. Donc, défensivement, la case, elle est cochée dans un niveau très très, pour reprendre ton image, très très haute. L'attaque, c'était le sujet d'interrogation avant la saison. On a vu lors des derniers playoffs qu'il y avait des vrais progrès dans
le
match-up
surtout.
À Jimmy Butler. C'est le shoot qui est la plus grosse interrogation qui fait que. En l'état, j'ai du mal à imaginer ce garçon être un jour beaucoup, beaucoup plus haut dans le classement parce que aujourd'hui, on est vraiment à Kawhi Leonard s'il avait 14-15 ans, quoi. Je grossis, mais vraiment Kawhi, quand il s'est bien développé aux Spurs, on a vu le shoot le suivre. Amen Thompson, pour autant, il faut aussi prendre l'entièreté du jeu offensif en considération et donc tu ne mets pas 18 points de moyenne par hasard.
Non.
Tu n'es pas inarrêtable en pénétration par hasard.
Je suis d'accord.
Moi, je l'ai vu jouer notamment
en termes de handle et tout.
Face aux Suns, tu vois, quand on avait été à Houston. Alors, ce sont des flashs, hein. Mais il y a des moments où Amen Thompson, quand il réalise et qu'il est poussé par KD, par Sengun et par toute l'équipe de Houston, que en fait, s'il est agressif à l'arceau, bah, il n'y a pas un être humain vraiment qui peut se mettre devant lui en homme à homme, hein. En protection, tu peux, mais une fois qu'il baisse l'épaule, Amen Thompson, c'est bon, tu sors le polaroid. Eh ben, tu peux avoir des séquences de 4-5 minutes où en fait il est inarrêtable offensivement. C'est surtout de la pénétration.
Le vrai sujet,
c'est surtout du flotteur. Et en fait, c'est
le shoot. Il n'y a pas à tortiller.
Donc c'est 9. J'aimerais bien en fait refaire ce classement dans un an, dans deux ans avec toi pour voir si ça stagne ou si ça progresse. Je vais donner un peu de love à Amen, qui est un cran au-dessus de Ossar. Ça, clairement, les deux discutent défensivement. Mais alors Amen est un cran au-dessus de Ossar.
Ouais, on lui file plus de responsabilités, mais certainement qu'il a l'air plus talentueux aussi. S'ils sont dans des contextes différents, j'ai l'air. Si tu mets Kate Cunningham aux Rockets, je pense qu'il a moins de ballons à Amen Thompson et que tout le monde est content.
Absolument.
Tu vois
On va en 8.
Ouais, on va en 8.
Qu'est-ce Parce que toi, en 9, tu avais mis. Ah, mais non.
Si. En 9, je viens de mettre. Jalen Williams.
Oui, Jalen Williams, pardon.
Tout à fait.
Allez, place numéro 8. Ça me fait chier de le mettre, mais.
Ça me fait pas chier, je savais pas où le mettre non plus.
Evan Mobley. Et Alex a mis Bam Adebayo. Je sens à ta tête que t'as pas mis Evan dans tes 10.
Non. Et en fait, il était dans mes discussions. Il est là.
Ouais.
Il est dans mes discussions. J'avais absolument besoin de mettre Tatum en wildcard. Donc en fait, ma place 10 était déjà prise. Mmh. Et après, il était dans ma bataille. Bam Adebayo, Jalen Williams, le gars que j'ai mis en 7 aussi, juste au-dessus. Il était à la bataille avec pourquoi pas rentrer un Anthony Davis ou un Embiid. Il était dans cette bataille là et j'ai pris Bam Adebayo plutôt qu'Evan Mobley, moi.
C'est compliqué en fait.
Tu
la question
Bam Adebayo, toi?
Ouais, en fait, okay. La question que j'allais te poser,
putain,
c'est
on va avoir des sacrées différences.
Je pense qu'il y a des gars sur lesquels on va pas être d'accord, c'est très bien. Tu me dis juste, moi j'ai eu pas trop de difficultés à isoler les 3-4 premiers, en tout cas savoir dans quel ordre ranger, mais les noms sont venus assez vite. C'est plus sur les places 6, 7, 8, 9, 10 qu'en effet il y a eu plus de débats internes. Je sais pas comment c'est pour toi, mais
ouais,
c'était compliqué.
Là-haut, moi j'ai eu des débats internes aussi là-haut pour classer.
Oui, voilà,
je pense que sur les joueurs
sont
on va être d'accord,
ouais, voilà.
Mais je pense que par contre pour classer c'est chaud. Après, en fait, Bam Adebayo, Il a certaines limites en attaque.
Ouais.
Bon, c'est pas trop encore pour Evan Mobley. Donc ça, ça jouerait plutôt en faveur d'Evan Mobley, je trouve.
Bah là, je parle actuel. Et Bayo est un meilleur joueur offensif que Evan Mobley.
Oui, mais pour combien de temps, on sait pas. Peut-être qu'il le restera. Et puis la marge est pas non plus. Genre Bam Adebayo, c'est pas Nikola Jokic quoi en
non,
attaque
non.
quoi. Tu vois, genre y a pas non plus. Non, en fait, moi, ce qui me fait choisir Adebayo, c'est que en fait, mine de rien, autour d'Adebayo, le hit cette année là avec
c'est top 5 défense,
avec sa pace de fou, je sais pas quoi, machin, nanana. En attendant, voilà. Top 5 défense.
Ouais.
Top 5 défense, ouais. Quoi qu'il arrive. Et Adebayo, il me gaffe de ouf en attaque parfois. Genre quand il commence à vouloir un peu soit forcer le trait, les longs mid-range, ou voir les 3 points, ou que parfois il est là, il a un mec plus petit que lui, mais il cherche quand même la passe et tout, vas-y s'il te plaît.
Ou oublier que physiquement c'est Jaren Duren, et que du coup il peut enfoncer la terre entière s'il
voilà,
veut.
Voilà, ouais, ça me gave. Ouais. Mais il a quand même travaillé là-dessus, il a travaillé sur son tir, il est plutôt à 18 points, 10 rebonds maintenant et tout, donc c'est quand même intéressant, il y a quelques passes et tout. Mais par contre, de l'autre côté du terrain, quand tu regardes jouer le Heat, très souvent je suis là, je fais « Ah, Adebayo, putain !» Eh le mec, poste 1, pas de problème, poste 2, pas de problème, poste 3, pas de problème, poste 4, il s'en fout, poste 5. Limite, c'est les postes 5 qui le font le plus chier. Ouais. Parfois, les grands, gros, massifs, parce qu'il est peut-être un peu petit, il est moins grand, par exemple, qu'Evan Mobley ou quoi. Mais, genre, enfin, en fait, le truc, c'est ça qui me fait mettre Bam Adebayo et pas Evan Mobley. Si je dois construire une défense, aujourd'hui, je prends Bam Adebayo.
Moi aussi.
Et en attaque, je trouve que bon, c'est quand même des bons joueurs les deux, quoi.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est des gros two-way players. Et donc, moi, j'ai Bam Adebayo. Donc, toi, t'as pris Vavan Mobley.
Vavan Mobley, j'en parlais de Bam Adebayo que j'ai un petit peu plus loin et dont tu as très bien parlé. Evan Mobley, j'en parle rapidement. Évidemment, la défense n'est pas un problème. Je me suis demandé au début s'il était.
Ah,
en fait, je me suis demandé si Evan Mobley était vraiment dans la catégorie des. Évident two-way player, défensivement il n'y a pas de débat, le mec il est défenseur de l'année, alors on peut encore débattre sur qui était le deep boy l'année dernière, mais c'est un défenseur exceptionnel Evan Mobley, qui a encore de la marge, parce que c'est un superbe défenseur,
bah, il est jeune, hein.
Mais qui est jeune, qui manque parfois de poids,
il y a la mentalité, qui joue un peu en sa défaveur.
Et offensivement, eh ben, il est à la bonne place là, cette place entre 8 et 16 chez toi, allez Evan Mobley, il est entre les places 10 et 15, grosso peut-être, il a eu une place de mention un peu ou pas?
Oui, je te dis, il était dans la discussion là avec, Cooper Flagg, avec Jalen Williams
c'est
et
ça.
Tout, mais tu vois j'ai pris Jalen Williams, j'ai pris Bam Adebayo avant Evan Mobley.
J'ai pris les deux et même Evan Mobley, tu vois, donc on va avoir vraiment des noms différents, ce qui va être assez cool. Evan Mobley au final, je suis obligé de l'intégrer parce que je trouve quand même que il me frustre, j'attends davantage et il est capable de proposer davantage à certains moments. Peut-être que je m'accroche un petit peu trop encore à ce rêve d'un Evan Mobley qui est encore meilleur offensivement. Il y a des soirs, en fait, il y a des soirs où je regarde Evan Mobley sur le terrain,
ouais.
Et où je me dis c'est un des trois meilleurs two-way de la planète. Et le surlendemain,
tu te dis,
je me dis,
je prendrai pas dans
chez
les
Hawks.
Je prendrai pas chez les Hawks.
Il a joué ce soir.
Ouais, non, mais je suis d'accord.
Et donc ça
je
me fait chier.
Je suis d'accord.
Et en fait, résultat, bah quand il y a des flashs, bah je suis amoureux. Et donc je le dis, mais il ne peut pas sortir de mon classement.
C'est impossible.
Et puis en fait, les trois jours qui suivent, je me dis, mais pardon, mais t'as des Yang. Qu'est-ce que sort de ce corps? Qu'est-ce que tu branles? Voilà. Donc Evan Mobley en 8. Alex a parlé de monsieur Bam Adebayo. Je sens qu'on va pas être d'accord, ça va être génial sur les places suivantes et je vais rentrer en place numéro 7 et Alex aussi. On va voir qui tu as mis. C'est une assez belle draft hein, cette draft parce que il y en a un que j'ai pas pu mentionner mais qui est très très fort. Anthony Edwards pour Alex et j'ai mis monsieur Scotty Barnes en place numéro 7. Tu l'as? T'as Scotty Barnes?
Oui.
Oh, donc il est très bien placé Scotty Barnes.
Pardon,
ouais.
Quoi.
Mais bah, bien sûr, monsieur. Attends, on va parler. Alors, parle-nous d'Anthony Edwards parce que je suis très curieux. J'ai une question après à te poser. Mais
tu l'as pas. C'est ça?
Non.
Si je comprends bien. Bah, en fait, je pense que je voulais absolument mettre Anthony Edwards. C'est pas forcément le premier joueur auquel j'ai pensé, mais après j'ai fait ma petite recherche et tout. Et puis, quand tu regardes jouer les Minnesota Timberwolves. Qui ont depuis un paquet d'années maintenant, une très bonne défense. Genre là, j'étais en train de checker, encore cette année.
Tu veux dire l'arrivée depuis un Français ?
Voilà, c'est ça. Rating défensif, 4e, bonjour. Ce sont les Minnesota Timberwolves.
Oui.
quatrième rating défensif, tu peux te dire bah ouais, ils ont un des meilleurs pivots défensifs de la ligue, si ce n'est le meilleur pivot défensif. Bah bon, je vous laisse discuter là-dessus.
Forwards.
Voilà. Ils ont Jaden McDaniels qui est un super défenseur et tout. Ouais. Mais ils ont aussi un leader qui est complètement dans la lignée de ses idoles Michael Jordan, Kobe Bryant et compagnie au poste d'arrière. Il défend mine de rien Anthony Edwards. Il refuse pas les combats. Il refuse pas d'aller défendre sur Luka Doncic ou d'aller défendre sur je sais pas qui d'autre.
Tatum l'année dernière, on l'avait
voilà.
vu des matchs.
Voilà, il refuse pas le délire.
KD, on avait vu fin de match, il adore
il
ça.
Il refuse pas les délires. Ouais. Il y va en défense et il attaque de l'autre côté. Et cette année, dans la foulée de l'année dernière, il est en train de devenir un excellent shooter, drive, ça progresse à la création. Offensivement, c'est un monstre Anthony Edwards. Et bien en fait, en défense, il est fort quand même. Moi, je trouve fort en fait en défense. Et je pense que s'il n'était pas aussi fort en défense, ce serait compliqué d'avoir la top, une top 5 meilleure défense tous les ans. Ça jouerait forcément entre le cadavre de Mike Conley, tu vois, qu'il faut parfois...
Ils ont perdu Nicky Alexander Walker qui aidait en ce sens Anthony Edwards à récupérer des responsabilités.
Ils
non,
ont perdu Nicky Alexander Walker et ils ont toujours la quatrième meilleure défense de la ligue. Les types ou cinquième, enfin bon bref, une grosse défense. Oui. Donc pour moi Anthony Edwards, ouais, c'est un des meilleurs two-way players de la ligue. Et c'est... Et en fait, parfois je me dis, attends, je le mets qu'en 7. En fait, je pense que c'est un domaine dans lequel il est sous-estimé. Je pense que je vais mettre des gars au-dessus où les gens vont me dire juste redis-moi pourquoi il est devant Anthony Edwards et la discussion est réelle en fait.
Bah je suis content
peut-être
que tu
un peu moins régulier Anthony Edwards mais en fait chaf il est là la vache. Qu'est-ce qu'il est là?
En fait, c'est marrant que tu le mentionnes parce que je voulais justement lancer un micro débat avec toi et je vous invite évidemment à y prendre part, c'est que moi au tout début mon premier jet à cette place numéro 7, j'avais Kate Cunningham. Pour une raison qui est simple, c'est que très sous-estimé, Cade, et notamment quand tu entends les Osar Thompson et Jimmy Bickerstaff qui en parlent, ils disent que la raison numéro une que aussi Détroit est de plus en plus sérieux défensivement, c'est qu'en fait, le mec qui décide de prendre aussi des match-ups très très fortes en défense, c'est Cade Cunningham. Les fans des Pistons, allez-y à fond en majuscule dans les commentaires, il y a des stats qui n'arrivent pas à tourner comme quoi c'est un des mecs sur lesquels les pourcentages sont les plus bas chez les extérieurs de la NBA. Et en fait, je me suis arrêté peut-être de manière erronée, mais à quoi je pense quand je pense à ces joueurs. Et quand je pense à Anthony Edwards aujourd'hui, peut-être de manière erronée, hein, mais je pense encore à un très très fort joueur offensif qui, quand il le désire, défend dur.
J'entends.
Peut-être de manière erronée.
Je dis pas que c'est... Moi, j'ai l'impression, pour avoir beaucoup vu de match des Wolves, en fait, cette année, je me suis aperçu que j'avais beaucoup regardé les Wolves. C'est une équipe que je trouve que c'est sympa à regarder cette année. En fait, il y a des hauts, des bas, mais il y a tout un truc.
C'est bien irrégulier, mais quand ils sont forts, ils sont très, 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 très forts.
Il y a un truc qui est en train de se... Ouais. Je sais pas. Et j'aime bien Anthony Edwards et tout ça. Et c'est pas que j'aime pas Kate Cunningham. Au contraire, je pense que j'ai beaucoup regardé les Pistons également. Il y a une différence. Je suis d'accord dans l'attitude de Kate Cunningham cette saison. Ça a changé. Il y a eu un switch. Il le faisait déjà un peu l'année dernière, mais là, c'est mieux.
Parce que les deux côtés du terrain, c'est très méchant, Kate.
C'est très méchant. Et en plus, lui aussi, hein, c'est un grand garde. Hein. Anthony Edwards est plus petit. Par contre, l'athlète Anthony Edwards, c'est sûr qu'il a un Kate Cunningham dans chaque mollet. C'est pas les mêmes qualités athlétiques. Kate Cunningham, il fait 2 mètres. Hein. Il est grand, il est long, il fait 2 mètres.
Et il y a des chest down de fou furieux.
Et puis, il est chiant. Ouais. Déjà, quand il est devant toi, c'est voilà.
Je suis
d'accord là-dessus. Le seul truc, c'est que, comme on est dans un classement actuellement, en two-way player, j'aurais tendance à prendre Anthony Edwards parce que j'ai l'impression que ce qu'il a montré sur les derniers mois et les dernières saisons est pour l'instant supérieur à notamment Kate Cunningham. Voilà. C'est ça que je veux dire. Et pourquoi je le mets devant Adebayo? Oui, il est moins fort en défense qu'Adebayo. Par contre, à un moment donné, donc c'est pour ça en fait. Franchement, en attaque, Anthony Edwards ou Kate Cunningham en attaque, c'est une discussion.
Ouais.
En défense, je prends Anthony Edwards.
Oui. Que fait Booker dans cette discussion?
Non, il est derrière en défense. D'accord. En attaque, il les regarde droit dans les yeux.
Ouais, même il les...
Non, il les regarde droit dans les yeux. Eh, ça rigole pas quand même, Kate Cunningham et Anthony Edwards. Ouais, J'adore Booker.
Ouais, mais même Booker, il peut dire bon, les gars.
En tout cas, Booker, si demain on me dit non, mais Booker.
Asseyez-vous.
Ouais, demain, Booker est devant, ça se discute. Par contre, en défense, je le pense un petit peu derrière.
Ouais, je suis d'accord.
Je le pense un petit peu derrière.
Pas les mêmes outils athlétiques aussi et physiques.
Bon, par rapport à Kate Cunningham, ça se compare?
Un peu plus grand, un peu plus stock?
Non, il doit faire la même taille, franchement, non?
Ah ouais, putain, Kate, c'est un big guard. Hein.
Oh ouais, mais Booker, il fait 2 mètres, non? Il fait 1m98, allez. Fais voir.
Ah.
Cade. Sur basket, ref. Hein. Cade, ils nous disent 6'6, 2 mètres, toi, 1m98.
Putain.
Et Booker, marrant, je l'avais vu plus grand, Booker, je le mettrais à la même taille, peut-être un poil. Non, 6'5, 1m96. Okay. Voilà, après, Booker, il a.
Il a pris.
Il
a pris du coffre.
Ouais, 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 il a fait les épaules et tout ça. Donc, mais c'est juste différent.
C'est dans la ligue des arrières,
en termes de déplacement de côté Folland, il se compare plus à Kate Cunningham qu'à l'explosivité d'Anthony Edwards. Oui. C'est ça que je veux dire. Mais voilà. Mais en tout cas, non, Booker, non, je le rentre pas, même s'il a fait beaucoup de progrès et tout. Mais
c'est pas un tout, ouais.
C'est pas un tout, ouais.
C'est pas un tout,
et c'est là où j'ai du mal à mettre Kate Cunningham. Alors que je trouve qu'Anthony Edwards, il a ce petit côté dans le nasty Jordan, oui. ou le.
J'aimerais que ce soit encore plus défensivement.
Ah, on aimerait.
Régulier.
Évidemment, tout à fait. Mais
parce que là, au-dessus de lui, c'est plus régulier.
Bah, c'est pour ça qu'il est que 7ème.
Et c'est ça. Allez, un peu de love pour Scotty Barnes, dont Alex va nous parler après. Parce
non, je l'ai en 6, donc je vais en parler.
Bien. Vas-y, parce que Scotty Barnes, il est dans cette conversation. Très très belle draft. Hein. Là, on vient de parler d'Evan Mobley, de Kate Cunningham et de Scotty Barnes. Ça défend. Il y a des garçons aussi qui sont dans cette génération de il faut vivre et exister des deux côtés du terrain. Scotty Barnes fait partie des meilleurs two-way players de la planète. Défensivement, on connaissait les aptitudes de ce garçon, ça se voit très fort cette saison. C'est un des défenseurs que
il
j'adore le plus voir.
Il a progressé, hein,
ouais,
en défense.
Et j'adore le voir là cette année en défense, Scotty Barnes. J'en ai parlé dans le point à mi-saison des défenseurs de l'année. Vraiment, il me régale sur l'homme, en aide, en régularité, en gestion de ses fautes, en leadership. C'est super. En attaque, j'ai l'impression que le plafond pour le moment, c'est cette place 6-7 là. C'est difficile de rentrer dans le top 5, mais merci Darko Rajakovic, merci Ingram, merci l'évolution à Toronto. C'est un peu mieux offensivement. Il y a moins de déchets, Scotty Barnes.
Il y a un peu moins de déchets. Il y a toujours un peu de doute parfois au shoot.
Oui.
Et surtout, je trouve qu'il y a plus de régularité dans la qualité de la création. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Scotty Barnes est un candidat à triple-double. Genre le sujet c'est les passes, hein, parce que quand même plus de 10 points et plus de 10 rebonds, il va souvent le faire, mais le sujet c'est les passes. Mais c'est un vrai maintenant candidat à triple double, parce qu'en fait les matchs où il est à 5 passes au bout de un quart temps parce que les shoots rentrent et il a créé, ouais. En fait il a vraiment bien progressé là-dessus, là j'étais en train de regarder, ouais c'est ça. En fait, là, ça fait 3 saisons de suite où il est à 8 et quelques passes. Sauf que là, il commence à travailler sur ses pertes de balles. Le sujet du pourcentage au tir, c'est surtout à 3 points. C'est ça qui lui manque le plus. S'il avait un tir à 3 points plutôt à 35-36%, les défenses seraient beaucoup plus obligées de sortir sur lui. Et là, parce qu'avec sa progression en dribble, plus son physique, hein, parce que le physique de Scotty Barnes, honnêtement...
Ouais, c'est chaud.
Genre, à part... deux immenses freaks qui vont être un peu plus haut dans ce classement. C'est quoi ce délire, Scotty Barnes?
Il vient du laboratoire.
Il est impressionnant. En plus, il a pris de la masse, là. Et il a pris de la masse. Hein. Là, il doit faire 110 kilos, là, maintenant.
En plus, ouais, même.
Ah ouais? Tu penses, ouais?
En fait, il est arrivé, il était déjà stock et grand.
Et là, il a pris de la masse, ça se voit, et il se déplace toujours aussi vite.
Ouais, c'est une gazelle.
Et voilà, vache. Non, il est très impressionnant. Il switch tout, lui, hein. Alors lui, j'ai parlé d'Adebayo tout à l'heure, mais ouais, lui c'est pareil.
De 1 à 8,
il défend. Ah ouais, il s'en fout complètement lui. Hein. Long, athlétique, déplacement latéraux, donc vraiment, il y a un léger manque de scoring pour aller plus haut qui vient principalement du pourcentage à 3 points, dans le sens où du coup, bah, il se fait pas toujours respecter.
Oui.
Il y a des défenses un peu plus faibles, c'est pas qu'elles zonent sur Scotty Barnes, mais oui, presque. Le défenseur, on lui dit non, oh là là,
ouais,
le laisse surtout pas passer l'épaule, tant pis s'il prend le tir.
Oui, tout à fait.
Et c'est la bonne, d'ailleurs, c'est la bonne manière de défendre Scotty Barnes, hein, c'est
ouais,
logique. Hein.
C'est pas demain, et peut-être que les fans de Toronto vont vouloir me choper par le col, hein, mais c'est pas demain qu'à égalité avec 5 secondes à jouer, le premier truc que va dessiner Toronto, c'est une ISO Scotty Barnes.
C'est pas forcément, ouais, c'est clair, ça va jouer Brandon Ingram, ça va jouer Emmanuel Quickly. Ah oui.
Et
bah
ça,
c'est pour ça qu'il ne rentre pas dans le top 5.
Et ça te plafonne dans
parce
ton top 5.
Parce que sinon, il est top 5.
On est d'accord. Place numéro 6, juste je te rejoins parce que toi, tu as mis donc Scotty Barnes.
Oui,
c'est là que j'ai J-Dub, Jane Williams, parce que
okay,
oui, je pense que là-dessus où tu as un peu plus raison, c'est que vu ce qui se passe cette saison, il faut le reculer.
Je ne peux pas le mettre devant Scotty Barnes.
Je comprends.
Tu le mets devant Scotty Barnes?
En fait.
Ah vache.
En fait.
Mais non, mais je comprends, hein, mais je comprends. Non, je comprends pas, mais je veux dire, j'entends.
Oui, t'entends.
J'entends.
En fait, Jan Williams, ce qui est fou, c'est. Oui, j'entends les arguments sur le Thunder peut très bien défendre sans lui, etc. Juste par contre, il suffit d'entendre les mic checks qui sont faits avec les joueurs
oui,
du Thunder.
C'est le
meilleur défenseur du Thunder. S'il y a des gens qui pensent que c'est Jan Williams, ça s'entend et
en
ça
tout
se discute sans le moindre problème. Et vous pouvez même demander à un garçon dont on va reparler dans ce classement dans quelques minutes. Il s'appelle Victor, son nom c'est Wembanyama.
quand les Spurs se ramènent à OKC et qu'il y a eu 3 matchs qui ont été remportés par les Spurs et qu'il y a un mec qui dit à Marc Degno et au staff c'est moi qui vais prendre Victor, et il fait un match assez moyen par rapport à ses habitudes, etc., parce que Chet Holmgren prend l'eau, c'est J-Dub. Un des meilleurs mecs qui a défendu Wemby cette saison, et beaucoup d'intérieur, notamment du Jokic par le passé. Il y a eu des, minutes de Jalen Williams qui défend sur Jokic. Il est tanké sur les cuisses. Il est fort.
Il se met devant.
Il est polyvalent. Il se
place bien. Non, mais c'est vrai.
Il
est une
de passe.
Bah, il fait un peu du Draymond parfois.
Il fait du Draymond, exactement.
Un peu.
Et en fait, oui, t'as 100% raison. Le début de saison est hyper compliqué et cette blessure à la main fait qu'on peut se poser des questions légitimes. Par contre, on va pas se mentir, tu viens de parler de Scottie Barnes, le mec le plus clutch du teneur dernière, c'est Jalen Williams. Et un des mecs encore qui est extrêmement clutch et pour qui tu peux dessiner en fin de match ton isolation ou jouer sur pick and roll, c'est J-Dub. C'est un mec qui est trop fort et de côté du terrain. Donc, je l'arrête là. Parce qu'en fait, à date, si on regarde vraiment les 3-4 derniers mois, je suis totalement dans ta place. Mais j'ai pas pu m'empêcher de me souvenir des playoffs de la saison dernière et de la place de ce mec. Oui, allez-y, le Thunder, faites une grosse régulière. Si J-Dub n'est pas sur deux jambes, les playoffs, ça sert à rien d'en discuter. Hein. Le mec, il est trop. C'est un des meilleurs toués de la planète. Mm-hmm. Tu l'as mis en 9?
Ouais.
Je l'ai mis en 6.
Ouais.
C'est bien. On va rentrer dans le top 5.
Top 5.
On n'est pas trop trop loin au final. J'avais un effaceur. Ouais, qu'est-ce que j'en ai foutu? Ça, c'est l'âge. Place numéro 5, c'est un joueur que tu as déjà mentionné. Donc, je vais.
Moi aussi, c'est un joueur que tu as déjà mentionné.
Ah, oh là là.
Beaucoup plus bas.
Oh. Et c'est monsieur Kawhi Leonard. Et là, moi, j'ai mis monsieur Bam Adebayo.
Ok.
Bah, du coup, vas-y, sur Kawhi, qui joue en ce moment, donc on peut aller dans ton sens, bien sûr.
Bah, disons que je suis évidemment influencé par ce qui vient de se passer depuis 2 mois. En même temps, c'est un classement actuel, donc c'est logique. Bon, offensivement, je crois que Kawhi Leonard, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il n'y a aucun sujet. L'autre, c'est un grand malade. On lui a refilé 32% de usage rate, hein. Là, depuis le début de saison, en tout cas. Il est à 28 points par match en 50, 40, 95, conneries comme ça. 63% de true shooting. Vous irez voir comment ça fonctionne, le true shooting.
Vous
mais
prenez
c'est,
un trou et vous
shootez. C'est une stat avancée qui prend en compte les 2 points, les 3 points et les lancers francs. Bon, Kawhi, il n'en a pas non plus tant que ça des lancers, mais il en a un peu. En gros, c'est quand même, on va dire, plus pertinent, en tout cas à mon sens, que de juger un type sur ses pourcentages au tir brut, en tout cas.
Robin, on a très bien parlé dans le week pass numéro 1.
Non, mais
si
exactement, mais il a raison. Enfin, je suis d'accord. Enfin, tu vois, voilà, le true shooting, pour moi, c'est vraiment une stat importante. Et d'ailleurs, je vais m'en servir un peu là sur la fin de ce top 10. Mais voilà, Kawhi, c'est un truc de mutant. C'est-à-dire que un gros true shooting comme ça, avec en plus un 50-40-95, à 28 points par match, pardon, avec du rebond et de la création.
C'est KD qui a bouffé le lobby.
Tiens, c'est marrant, il y a 2,2 interceptions par match. Tu sais qu'il n'y a pas grand monde qui intercepte tellement plus de ballons que Kawhi. Alors, c'est plus le Kawhi Leonard des Spurs au milieu des années 2010 ou des Raptors capables de défendre sur l'homme et tout. Mais sur cette streak là où il est vachement en confiance et tout, on l'a vu prendre ses responsabilités défensives à de nombreuses reprises, soit en premier rideau, alors avec moins de violence comme il faisait avant, où il se met nez contre nez avec le gars il essaie de passer, il a l'impression de jouer face à un miroir, c'est l'enfer, et puis un miroir, une armoire à glace quoi, hein, vous voyez, là c'est un peu moins ça parce qu'il bouge un petit peu moins vite latéralement, clairement les genoux, l'âge et tout machin, mais par rapport à quand il est revenu l'année dernière, je trouve qu'il est un peu plus svelte là, il bouge bien, et en fait, derrière son immense streak offensif, on en oublie que en fait, il est crucial dans le dispositif défensif des Clippers, qui ont une des toutes bonnes défenses de la ligue depuis. On en a fait un apéro avec Bastien il y a quand, il y a la semaine dernière, il y a 10 jours, un truc comme ça. Donc ouais, en fait, il y a quelques années, j'aurais mis Kawhi en un des two-way players, genre sans aucune discussion. Et si quelqu'un m'avait dit non et tout, ça partait en bar fight. Là, je le mets top 5.
Ouais, j'en prends.
Parce que quand même, putain. Genre, évidemment, les genoux, vous allez me dire, ouais, mais tu vas voir, dans 3 matchs, son genou, il a re-enflé, nanana. J'entends, mais là, il vient de jouer, il est en train de.
Bon
sur ses épaules, et il y a un collectif autour de lui, hein, mais sur ses épaules, et les épaules offensives d'Harden, mais au niveau global, c'est les épaules de Kawhi, quoi.
Quand il est là, ça se voit très fort.
Il est trop fort, en fait. Encore aujourd'hui, alors qu'il a quel âge maintenant? 33, 34?
Oh, ouais, c'est un 92, 93?
Je sais pas. J'arrive.
33 piges,
Kawhi. Kawhi. Il a. Elle est où sa date de naissance? 34 ans. Bientôt 35 en juin.
Oula. On va en profiter. Hein.
Bah ouais, mais c'est encore fort ce qu'il fait à cet âge-là. Ah, c'est mon joueur le plus vieux. C'est mon joueur le plus vieux du classement.
T'as certainement moi aussi.
Oui. Ah oui, tu m'as fait peur, putain. Bastien Camille,
LeBron.
Où on ne l'a pas mis, du coup, j'imagine, mais Kevin Durant a eu un moment un slot dans ma tête.
Oui.
Mais c'est surtout un défenseur d'aide, c'est quand même autre chose. Kawhi Leonard, c'est un autre délire. Donc,
le plus haut niveau qui a atteint KD, c'était en 2017-18.
Bam Adebayo, tu l'as mis en 5.
Ouais, je continue de penser, tu en as très bien parlé.
Moi, je l'avais en 8.
Je continue de penser, merci d'avoir remis du respect et de l'avoir dit comme tu l'as bien précisé. Une défense entière de franchise peut encore et toujours se construire sur lui. Une défense entière de fin de match peut encore et toujours se faire sur Bam Adebayo. Bam Adebayo switch sur James Harden et Luka Doncic. J'ai pas peur. C'est compliqué, mais j'ai pas peur. Donc c'est quoi qu'il arrive, sauf changement du calendrier géorgien ou tout ce que vous voulez, Bam Adebayo est un des meilleurs défenseurs de la planète sur tout poste.
Je suis d'accord.
Et en fait, en attaque, oui, les stats ne sont pas brillantes, mais ça reste quand même un hub offensif. C'est-à-dire que la façon dont il met ses coéquipiers en avant, la façon dont certes il peut nous rendre fous offensivement, mais il y a eu un des mecs qui se sont fait assassiner récemment parce que Spoelstra il dessinait des fins de match pour Bam. Hein. Eh, les Spurs, on a pris du shoot au buzzer l'année dernière. Ouais. Les Pistons, ils prennent un 3 points au buzzer par Bam Adebayo. Hein.
Non, mais c'est
pas
sûr,
le joueur
le plus
agressif offensivement, mais dès que j'ai pensé tout est, très très vite le visage de Bam arrive en fait. Très très vite. Très 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 vite. Donc il a pas la production que certains gars ont peut-être davantage qu'on a mentionné. Hein. T'as parlé d'Anthony Edwards, je suis tout à fait d'accord. Mais même Jalen Williams, hein, c'est très très fort ce qu'il présente. Ou même d'autres garçons dont tu viens de parler. Mais allez, voilà, je l'ai inséré encore. Mais attention, Bam, parce qu'il y a des joueurs qui arrivent très très fort dans le rétroviseur. Il va falloir bosser dur pour garder sa place. On va pouvoir rentrer en place numéro 4.
Tain, là, j'avoue que
là c'est compliqué. Là,
là. Alors. Là, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, peut-être même sur ce canapé, sur l'ordre.
Non.
Je pense, mais j'en sais rien en fait.
Jalen Brown, en place numéro 4.
Victor Wembanyama.
Et Alex a mis Wemby en 4. Bon, Victor est dans cette vidéo. Pourquoi tu l'as mis en 4?
Parce que j'ai 3 joueurs au-dessus.
N'hésitez pas à vous abonner. Allez, vas-y, parle-nous de Victor.
J'avoue, c'est une bonne question. Pourquoi je le mets en 4? J'ai eu pas mal de discussions. J'ai beaucoup hésité sur l'ordre. Jamais il a été 1, pour ceux que ça intéresse, dans ma tête. Il a tout de suite été dans les noms auxquels j'ai pensé, évidemment. C'est le meilleur en défense. Voilà.
C'est
le meilleur en défense. Il n'y a pas à tortiller du cul. Mais c'est pas le meilleur en attaque.
Non.
Du tout. Il y a pas mal de joueurs devant. Il est fort en attaque, hein, c'est pas ce que je dis. Mais la NBA en attaque, pardon, mais genre il est à quoi, Victor? 25 points de moyenne par match, ouais. Une carrière comme ça? 24-25 points,
35 points.
Et 3-4 passes d'ess, ce qui est super, ouais. Hein. Avec un bon true shooting pourcentage, avec un usage rate qui doit... Mais de toute façon, attends, j'ai mes notes là. Voilà, usage rate 32%, enfin, genre oui, voilà. C'est le meilleur en défense, parce qu'il dissuade, parce que le nombre de contres, même s'il est un peu moins élevé cette année, est monstrueux.
La dissuasion.
Dissuasion, c'est de la folie. Il switch peut-être pas tout à fait tout, mais pas loin. Quand il peut pas switcher, de façon avec sa taille de fou furieux, il peut rattraper des erreurs, les siennes ou celles des autres. Ben, c'est très impressionnant et tout. Il est en plus cette année vraiment mieux entouré en défense. Stephen Castle, ça step up bien fort. Stephen Castle, évidemment, il est pas dans nos top 10 aujourd'hui.
Ah ben, future mention. Hein.
Mais par futur top 10 même, ça se trouve. Hein. Parce que lui, le sujet, c'est peut-être même plus l'attaque limite. Hein.
Ouais. C'est qu'il y a Alexar aussi qu'il faudra surveiller parce que Pepper,
Carrément. Bon, là, c'était un peu quand même. Si on le met là.
Là, on est en place 30, si et là, 30 à 40.
Si on le met là, on va nous traiter de chauvin et franchement, ça sera mérité. Alors que Wemby, non. C'est le meilleur en défense. C'est un des tout bons en attaque. Donc, il est haut. Il est dans le top 5. Il est quatrième chez moi. Deux raisons à cela. Je pense que ses absences pour blessure ou le fait qu'il sorte du banc ont montré aussi que. Bon, l'attaque des Spurs, elle peut tourner complètement sans Wemby. Je te dis pas que c'est moins bien
par
que,
séquence,
que c'est mieux. Oh, bah, quand même, ça a gagné beaucoup de matchs sans lui. Et quand il est là, c'est mieux. Mais ça a gagné beaucoup de matchs sans lui. Mmh. C'est ça que je veux dire. En défense, c'est pas la même défense. Même si la défense des Spurs peut être tout à fait honorable avec un Cornette, un Harrison Barnes, un Stephen Castle, un De'Aaron Fox qui se craque un peu. Enfin, je veux dire, on bricole. Mais c'est quand même rien à voir. Je trouve que vraiment, là où Victor deviendra le meilleur two-way de la planète, c'est quand il fera ce qu'il faisait en début de saison là. Là, il l'a fait pendant quoi ? 5 matchs ? 8 matchs ? Quand il fera ça sur la longueur d'une saison, bon bah tiens, hop, c'est bon.
C'est le premier match à Santo Idemis.
Au revoir.
C'est le premier match de la saison passée.
Son début de saison là.
Non, c'est ridicule.
Ouh là là là.
Alors, classement du MVP.
Voilà, bonjour. Donc là, oui, mais comme ce n'était pas le cas, un, il s'est blessé. Deux, quand il est revenu, on le limite au niveau minute. On le fait un peu sortir du banc. Donc on fait gaffe. Donc en gros, moi, je suis désolé, le volume pour un two-way player, c'est crucial.
Ouais, j'entends.
Crucial. Donc là, Wemby, je peux pas le mettre plus haut. J'ai trois mecs. Je dis pas que c'est des joueurs intrinsèquement plus forts que Wemby parce que c'est quand même compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, en termes de two-way player, ils sont devant lui. Et notamment Jalen Brown.
Monsieur Jalen Brown,
que j'ai en trois.
Magnifique joueur de base.
Podium pour moi,
et franchement, les fans des Celtics, vous pouvez vous lever et bomber du torse parce que JB est clairement dans cette conversation. J'en parlais au tout début de la vidéo. Après son match à 50 points, plus de 50 points face aux Clippers, il a dit je pense être le meilleur joueur two-way de la planète. En tout cas, sur les ailes et
des
au
podiums.
Poste 3. En tout cas, au poste 3,
poste 3
le il peut dire je suis le meilleur.
Limite, le concurrent, c'est son coéquipier qui est blessé.
C'est son coéquipier blessé ou ton cyborg qui est à Los Angeles.
Tout à fait.
Jalen Brown, moi, je l'ai mis en 4. Énorme. On avait déjà les certitudes défensives. Qui ne se souvient pas des finales NBA avec notamment ses match-ups face à Luka Doncic. Son désir d'être fort en défense, bien entouré aussi. Même quand il y a des changements d'effectifs. Attention, il n'y a plus Alenfant, il n'y a plus Chris Stapps, il n'y a plus Jrue Holiday. Il est quand même encore investi défensivement, Jalen Brown.
Ah ouais.
Avec pourtant un ratio offensif énorme, il a encore plus
usage rate quasiment 37%, c'est une dinguerie. Le usage rate, parce que là je fais beaucoup de stats avancées, ça ne rigole plus. C'est les spécialistes là, les statologistes là, vous me direz si je dis de la merde, mais je ne crois pas. C'est le nombre de fois où une possession se finit par un tir à toi ou une passe à toi, enfin en gros finit dans tes mains ou pas loin.
Oui. Tout à fait.
Décision à toi. Voilà.
Et donc Jalen Brown est énorme des deux côtés terrain. C'est la. J'ai l'impression que JB, c'est la confirmation, c'est le plus haut niveau du potentiel qui a été projeté au moment où il arrivait en NBA.
Exactement. Je suis d'accord. Même je sais même pas. À titre personnel, je pense pas que je le mettais à ce niveau-là.
Non, là c'est énorme. Là on parle d'un candidat MVP, d'un leader incontestable d'une franchise qui est top 2 de la conférence Est. En fait, Jalen Brown. C'est marrant parce qu'on a parlé dans la preview des Celtics, on avait dit tiens, un mec qu'on a beaucoup pris pour acquis, où il a eu des critiques parce que c'est le plus gros contrat de la NBA. Personne ne parle du fait que ce mec est le joueur le plus payé de toute la NBA et qu'il a le plus gros contrat de l'histoire pour
une
raison simple.
On en parle pas.
C'est qu'il répond tous les soirs des deux côtés.
Et Jason Tatum, tendon d'Achille, on lui enlève Jrue Holiday. Le mec, déjà, il porte, pas tout seul, mais il est quand même la pierre angulaire
leader
de la deuxième meilleure attaque de la ligue en rating depuis le début de saison. C'est une dinguerie ça. Et en défense, c'est un peu plus mid les Celtics, mais c'est pas du tout de la faute de Jalen Brown. S'il était pas là, ça serait une défense de merde, limite.
Bien sûr.
Donc,
non, JB, énorme.
Respect. Gros respect.
À l'heure actuelle, c'est le meilleur 3. Ouais.
Du coup, je l'ai mis podium.
Très bien.
Je l'ai mis podium. T'as mis qui en 3 ?
On a inversé. On a inversé, mon cher Alex.
T'as mis Wemby.
On a inversé parce qu'en 3, j'ai mis Victor Wembanyama.
Ça veut dire qu'on a le même 1-2. Peut-être pas dans le même ordre, mais on a les mêmes gars.
Peut-être pas les mêmes joueurs. On va voir. Mais Wemby, alors évidemment, ça se joue à une place près. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Juste là.
J'ai fait le homer, quoi. Argument home.
En fait, l'argument numéro un qui me vient en tête, c'est que. Victor a un truc où je peux entendre, même si je ne suis pas d'accord, je peux entendre que certains l'aient mis en 1, c'est que c'est le numéro 1 incontestable d'une des deux catégories. C'est le clair meilleur défenseur de la planète. Jalen Brown est un des meilleurs défenseurs de la planète. Les deux garçons qui sont devant sont parmi les meilleurs défenseurs de la planète. Il y a Wemby et il y a le reste, défensivement.
Oui, mais par contre, en attaque, est-ce qu'il est top 10 ?
Et en attaque, du coup, je le recule.
Est-ce qu'il est top 10 ?
Non, je pense pas du tout.
Tu vois ?
Exactement, donc c'est pour ça que moi, il n'est pas un ou deux.
Non, mais attends.
Mais en fait, il est tellement fort défensivement que déjà il entre dans la conversation. En fait, Wemby limite ce serait l'exception de ce top 10, il serait à 10 points de moyenne qu'on dirait c'est un des meilleurs two-way de la planète. On irait limite contre nos arguments du début de la vidéo parce que le mec est tellement fort défensivement et dans ses lectures de jeu, dans son jeu de passe,
c'est
dans
marrant,
la façon d'intégrer ses joueurs.
Je suis pas d'accord, tu vois. Ben... Moi s'il était qu'à 10 points, il serait pas dans mes 10. Hein.
Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en
toi,
gros,
j'ai pas Doncic.
Non.
Et pourtant en attaque.
Quand j'exagère là-dessus, c'est pour te dire que en fait, Victor est tellement fort défensivement, c'est tellement le meilleur là-dessus que quand moi j'ai pu parfois envisager que les progrès défensifs de Jokic pouvaient me permettre de le mentionner,
Bah, je me serais dit, Victor serait un peu moins fort offensivement que je le considérais quand même, tellement il est fort en défense en fait.
Ouais, mais il est fort en attaque.
Et en fait, il est fort en attaque, mais il y a encore une nette marge de progression.
Mais voilà, c'est ça que je veux dire.
Il y a une très grosse marge de progression, donc je ne pouvais pas le mettre ni en 1 ni en 2.
Je sais pas si je peux dire d'un Doncic qu'il est fort en défense. Non, je peux pas le dire. Je peux pas dire d'un Jokic qu'il est fort en défense. Tu vois, je peux pas.
Il s'est amélioré.
Oui, il s'est amélioré, mais il est pas fort.
Il est pas fort fort genre élite. Non, je
suis d'accord. Ciblé et tout quand même un peu. Alors que je peux dire de Victor qu'il est fort en attaque.
Et donc du coup, ouais, tout à fait. Wemby, en fait, je le mets en 3 parce que si vous le mettez, en fait, si vous le mettez hors du top 5, moi je peux pas être d'accord. Et si vous le mettez numéro 1, je trouve que c'est un petit peu disrespect envers les garçons qu'on a en 2 et en 1 qui sont à la bataille. Ah ouais.
Non, je sais pas.
Moi, je trouve que le 1 et le 2, ça va être très fort.
J'ai hésité, en fait.
Comment t'as fait, Alex?
Bah, j'ai mis un 2, et puis après, j'ai mis un 1.
N'hésitez pas à vous abonner, comme ça,
voilà,
c'est tout lundi.
Si vous
n'hésitez pas, on parle de nourriture, décathlon, et puis voilà, après. Tiens, je veux voir ce que t'as fait, et puis... En 2, t'as mis?
J'ai mis Shai Gilgeous-Alexander.
Et ben, en 2, j'ai mis Yanis.
Ok, bon, je peux l'entendre. Ça m'énerve un peu, mais je peux l'entendre.
Juste, je me permets pour Yanis,
ouais, vas-y,
je te le dis. Tu vas en parler en long et en large. On a parlé en début de vidéo de nos amis Joel Embiid, Kawhi Leonard, Anthony Davis. Attention Yanis.
Oui, c'est vrai.
Attention Yanis.
Mais on ne sait pas encore.
S'il y a bien un mec qui commence à avoir des absences répétées, de blessures, qui est un garçon, oui, tu peux mettre en numéro 1 dès qu'il est sur deux jambes.
Il est mal entouré aussi. Ça commence à jouer contre lui, hein. C'est vrai, hein. C'est pas que de la faute des Bucks, c'est aussi de la sienne.
Tout à fait.
Mais aujourd'hui, je l'ai toujours en.
Et les responsabilités offensives sont tellement énormes pour Yanis que factuellement, défensivement, ces deux dernières années, c'est un tout petit peu moins bien et c'est logique.
Ouais, c'est logique. Mais par contre, là où je vais aller, je sais, j'ai vu cette critique poindre et tout sur Yanis. Juste, je vais nuancer cette critique. C'est un peu moins bien en défense. C'est-à-dire que c'était élite. Et maintenant, c'est quand même genre bon ou très bon. C'est selon, quoi. Ouais. C'est bon ou très bon. Mais c'était élite. Et c'est vrai que maintenant, c'est moins élite. C'est moins élite, peut-être en termes de nombre de stats, de nombre de comptes d'interception, peut-être en termes de couverture, peut-être aussi. Parce que, on lui met Kyle Kuzma, Kevin Porter,
pas moi qui fais le classement.
Le Miles Turner, genre les mecs, maintenant ils vont regretter le cadavre de Brook Lopez. Enfin, tu vois, genre, il a des circonstances atténuantes de ouf pour la défense. C'est vrai, il les a. Et il reste quand même un joueur, genre, tu joues pas sur Yanis. Hein. T'attaques pas sur Yanis. Non, non.
Non, t'attaques pas sur Yanis.
Non, non, non.
Mais ce qui était avant des évidences de. Merde, les line-up autour de Yanis sont parmi les meilleurs line-up défensifs. Il y a des coéquipiers qui sont moins bons, mais il y a aussi tellement de responsabilités offensives que c'est normal, il a dû lever le pied en défense.
Oui, oui, et puis ce que je veux dire, c'est peut-être qu'avant on disait les line-up autour de Yanis sont des line-up de fou, mais on oubliait que le mec il jouait avec Jrue Holiday, Chris Middleton, Brook Lopez, Chris Middleton avant qu'il se blesse, c'était pas la moitié d'un défenseur. Donc aujourd'hui, je le laisse en 1 devant Shai Gilgeous-Alexander à titre personnel, plusieurs raisons à ça. La première, c'est que genre, en fait, en termes d'efficacité offensive, même s'il shoot... Le mec shoot pas bien, et il a l'une des meilleures efficacités offensives de la Ligue.
Oui.
Genre, le fameux true shooting, là, il est à 67 ou 68%. Il y a que 3 joueurs devant lui. Bon, il y a Jokic, parce que l'autre, il est à 800% en true shooting. Et sinon, il y a Mark Williams et Rudy Gobert. Donc, des registres sensiblement différents de Yanis. Tu vois, Mark Williams... J'adore la saison qu'il fait avec les Suns. Et Rudy, oui, est très efficace, mais les mecs dunk, en gros, quoi. Donc, forcément, tu rates moins. Tu vois. Donc, c'est quand même. Et les mecs n'ont pas le usage rate de Yanis, hein, évidemment. Hein. C'est un monstre au rebond, d'une manière générale, que ce soit le rebond défensif et même au offensif, mais rebond défensif. Avoir Yanis dans ton équipe, c'est l'assurance, quand même, qu'il y a beaucoup d'attaques adverses. Quand ils vont rater le tir, il n'y aura pas de seconde chance. C'est un paramètre très important qui me fait aussi monter Yanis par rapport à Shai. C'est-à-dire que c'est un peu plus facile. C'est un intérieur, Yanis. Enfin, c'est un ailier intérieur, quoi. C'est un peu plus facile que quand t'es un extérieur, je trouve, de peser en défense. Mm-hmm. Ça veut pas dire que Shai pèse pas, hein. Au contraire, même.
Je vais y venir.
Pareil, on est sur un usage rate de fou malade. Là, faudra regarder, mais c'est 36%. Je crois qu'il y a que dans les très gros joueurs, il y a Jaylen Brown au-dessus. Et en fait, sinon, c'est un peu tout. Peut-être Doncic, tu vois. Ce genre de gars.
Maxi,
où,
peut-être.
Ouais, certains. Attends, il y a Jokic quand il y a des blessures. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est que des monstres, quoi, au-dessus. Et en termes de domination offensive, capacité à tout switcher ou presque. Presque. tu vois, genre, il y a quoi qu'Yanis peut pas défendre.
Non, Yanis il défend tout.
Tu vois, jeu rapide, jeu posé. Alors oui, c'est clair que, en fait, je le laisse en un, moi, et je vais te dire un truc, genre, aujourd'hui, il y a une bataille. Parce que Yanis se blesse un peu plus qu'avant, parce qu'il a 31 ans, parce qu'il est moins bien entouré qu'il a été entouré, moins bien coaché aussi. Enfin, tout, c'est moins bien. Mais ça, mais, enfin, justement, malgré tout ça, moi, je le laisse en un. Juste, c'est un peu plus serré. Il y a peut-être Wemby, il y a peut-être Shea, il y a peut-être Jalen Brown, il y a peut-être, je sais pas moi, Scotty Barnes ou qu'est-ce qu'on a souhaité. Voilà, mais en fait, je le laisse en un quand même, en fait, tellement il est fort.
Non, je comprends.
Franchement, c'est...
Moi, je t'avoue que Yanis a été évidemment dans la conversation. En fait, c'était entre...
Pourquoi tu mets Shea devant?
Alors,
c'est parce que c'est ça qui nous intéresse.
Du coup, je me redresse. c'est le même vraiment au jeu vidéo. Je vais le dire face caméra parce que je pense que parfois c'est un peu compliqué. Je pense que vraiment, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de voir avec Shea Gilgeous-Alexander.
Bah, tu vois, je l'ai en deux, hein, donc.
Voilà. Mais juste, on va parler français là à partir de maintenant. On ne se rend pas compte de ce qui se passe avec Shea Gilgeous-Alexander. C'est-à-dire que...
Surtout défensivement. Offensivement, on se rend bien compte quand même. Hein.
Je ne suis pas sûr.
Oh, quand même.
Je ne suis pas sûr.
Je te laisse faire.
Shea Gilgeous-Alexander, ouais, qui était donc déjà le meilleur scoreur de la NBA la saison dernière, cette année, 32 points de moyenne.
Il est meilleur? Non, il y a peut-être Doncic devant, c'est ça?
Bah, il y a un truc qui a un petit peu changé, c'est que si tu veux, tu veux que je te sorte les pourcentages de Shea ou pas? Il est à 56% au tir.
Ouais.
Il est à 40% à 3 points.
C'est bien.
Et il est à 89% au lancer.
C'est bien, c'est propre.
Je répète pour les gens qui sont au fond, il est à 32 points de moyenne en 56, 40, 90.
Surtout sa progression à 3 points qui est impressionnante.
On disait de Shea déjà aujourd'hui dans les moves les plus indéfendables, le mec à mi-distance, il fait ce qu'il veut. Vous pouvez parler de Free Throw Merchant, je suis désolé, il en provoque que 9 des lancers. Je sais que parfois la méthode peut faire chier, mais offensivement, il peut dire que c'est le joueur le plus indéfendable de la ligue avec peut-être Luka Doncic, Jokic quand il a la balle dans les mains, etc. Mais en gros, Shea, tous les jours, c'est un des 3 meilleurs attaquants de la ligue. Tous les jours, tout registre confondu. J'adore Yanis, mais Yanis dans le périmètre, il rêverait d'être Shea Gilgeous-Alexander.
Ah oui, non, mais c'est sûr que c'est même pas comparable.
Donc en fait, Shea, aujourd'hui, offensivement, on est en train de se rapprocher de l'indéfendable. Si je sortais ses statistiques et que je disais son nom, c'est Kevin Durant, tout le monde dirait, ben oui, c'est KD. 32 points de moyenne en 56, 40, 90.
Ouais.
Le Thunder, il n'y a qu'une franchise, puisque c'est un top 10 actuel, il n'y a qu'une franchise qui a eu plus de blessures que le Thunder, ce sont les Clippers cette saison. Factuellement, c'est-à-dire des joueurs de l'effectif qui sont absents.
Ah, il a tenu la barre.
J-Dub, Isaiah Hartenstein, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Caruso, tout le monde. Shea est là, le Thunder est indiscutablement la meilleure équipe de NBA. On vient de faire toute une plaidoirie sur Jen Williams sur le fait que sa saison pour le moment c'est compliqué. La franchise est sur les épaules d'un des meilleurs joueurs offensifs, si ce n'est le, certains peuvent défendre, ou les plus inarrêtables de la planète. Et à côté de ça, alors oui, le contexte défensif lui permet d'eux, et j'entends là-dessus que Yanis est plus isolé parce que l'effectif défensif autour de Shea, il est extraordinaire.
C'est monstrueux.
C'est monstrueux. T'as Lou Dort,
même avec
t'as
les blessures,
Craig,
je veux dire.
Bien sûr, t'as Caruso, t'as Lou Dort, t'as des gars qui viennent derrière. Kesson Wallace,
ça se trouve, c'est le meilleur défenseur de l'équipe, tu vois.
Bien sûr. Mais Shea fait aussi partie de la discussion.
Bien sûr, non, mais complètement.
Et en fait, il est devenu encore limite meilleur dans ses rotations, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont aller contrer à l'arceau, je l'ai vu aller chercher Wemby en l'air, je l'ai vu aller chercher Evan Mobley en l'air, je l'ai vu devenir encore meilleur dans ses aides. Il gère plutôt bien ses fautes parce qu'il sait qu'il a besoin d'un cardio énorme pour gérer une franchise sur les épaules. Et en fait, on a un des quoi, 3 meilleurs arrières défensifs de la planète, avec Shea, en gros. Le meilleur arrière offensif pour une équipe qui est injouable depuis 18 mois. C'est le meilleur two-way. Ça se joue d'une très petite chose parce que l'argument qui me fait passer devant, c'est je suis un tout petit peu inquiet des blessures qui commencent à se répéter du côté d'Yanis. Et en fait, Shea est d'une durabilité. Le mec, c'est un truc de ouf. Pas le même âge, pas le même kilométrage, mais
pas
Shea,
le même jeu non plus.
Pas
le même jeu bien non plus, le jeu de Shea pour ça.
C'est vachement bien. Mais donc, du coup, en fait, Shea, quand je le vois, je me dis attends, mais qu'est-ce qui manque à son dossier? Le mec, c'est le meilleur marqueur de la NBA. Des pourcentages de malades, trop fort défensivement. S'il faut devoir shut down certains garçons, il y a des gars qui l'a pris défensivement en ISO, c'est très très violent. Il est bien aidé derrière. En fait, j'aimerais retrouver Yanis dans un schéma compétitif parce que si c'est le cas, il passe devant Shea. Mais vu que c'est actuel, c'est trop triste de voir ce qui se passe à Milwaukee. Je suis obligé de le faire chuter d'une place. Mais sinon, c'est le meilleur two-way, je suis d'accord avec toi. Intrinsèquement, Yanis.
Ouais, quand même.
Intrinsèquement.
Je peux pas l'enlever pour l'instant. Mais peut-être que je vais devoir le faire dans pas longtemps, hein. Mais pour l'instant je le fais pas.
Dites-nous voilà. Qui vous avez. Évidemment, numéro 1, on va montrer le gros tableau.
Allez, gros tableau.
Le gros tableau avec voici le classement des meilleurs two-way actuels en NBA. Alex, comme tu l'as dit, il y avait tellement de mentions. On aurait pu parler de Cooper Flag, on aurait pu parler d'autres fous furieux.
Ouais, j'avais, bon là, il joue pas assez cette année, mais je relidais. Après, il attrape peut-être pas assez bien, tu vois. J'avais Jaren Jackson Jr. Quand il veut, pourquoi il est pas dans la discussion avec des Evan Mobley et des gars comme ça? Ça se discute.
À Denver, moi je veux bien voir les fans des Nuggets si vous pensez que c'est Aaron Gordon ou d'autres garçons qui sont mentionnés, parce qu'Aaron Gordon, attention, très
Pascal
très
Siakam.
Siakam aussi, ouais.
Tu sais que Pascal Siakam, il fait une saison. Ah, évidemment. Indiana Pacers, les types, ils ont pas objectif de gagner des matchs. Donc voilà, mais Siakam au milieu de ce merdier, il fait une vraie saison.
Bien sûr, un des visages souvent auxquels on pense dès qu'on parle two-way, je sais pas qui aime Mikal Bridges ou OG Anunoby, mais ce sont souvent des noms qu'on mentionne.
Pas assez fort en attaque.
Et pas assez fort en attaque.
Pour moi, les deux. En défense, il y a tout ce qu'il faut, je pense, mais en attaque, c'est pas assez fort. Les plafonds sont trop évidents. Ça rentre pas dans mes 10.
Ouais, je suis d'accord, c'est un petit peu compliqué. Et puis, à voir comment ça se développe à Orlando. Il y a certains garçons qui sont assez fort mais pas élite dans les deux registres. Il va falloir se développer davantage. Dites-nous qui vous avez en meilleur two-way de la NBA actuelle. Est-ce que certains ont Victor? Est-ce que vous êtes d'accord avec Alex sur Yanis ou avec Shea, ou peut-être que la Celtics Nation va être à fond derrière Jalen Brown? Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va retrouver lundi prochain
pour un nouveau top 10.
Balancez vos suggestions de sujets en commentaire. On vous fait des très gros bisous et à très vite sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Des bisous, ciao.